Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, c'est J'irai cracher sur vos ondes. L'émission syllabienne qui s'intéresse aux faits et aux jets littéraires de tout poil. Cette émission sera consacrée à Cordon Tombe, paru aux éditions du Commun et écrit par Aurélie Olivier. Mais avant de commencer, je me dois de préciser que cette émission a connu une gestation un peu compliquée. Ça commence avec une angine carabinée, avec laquelle je me rends le 11 décembre, d'abord à la MJC du Grand Cordel pour assister à la lecture rencontre, puis que j'y retourne le lendemain pour rencontrer l'autrice, juste avant la tenue de son atelier d'écriture. Le premier soir, je suis assommée par le texte. Porté par la voix douce d'Aurélie Olivier, il n'a plus rien à voir avec l'écrit que je lisais dans le silence et l'intimité de mon canapé. Le second soir, après l'entretien, je reste un peu pour capturer quelques moments de l'atelier d'écriture, mais suis vite contraint d'écourter ma présence alors que ma gorge se rebelle et que l'atout m'écorche. Je rentre, je me repose. Mais le temps passant, ça me paraît insurmontable d'aller écouter ce qui est tapis là sur ma carte SD. Il me faudra 2 mois pour y revenir. La poésie, ça fait tellement vibrer, des fois ça fait presque trembler trop fort. Ceci étant dit, je vous invite à découvrir cette récolte sonore, Cordon Tombe et Aurélie Olivier.
Le 24 au soir, après que les enfants avaient été déclarés pourris, gâtés par leurs aînés qui réchauffaient l'époque où, en guise de cadeau, ils recevaient une orange, alors que tout le monde avait la peau du ventre bien tendue, on craquait encore pour une crotte en chocolat, dont le goût et l'odeur se mêlaient à celle des clémentines et au rire déclenché par la gnôle, qu'on était allé chercher dans le fond d'un gros placard. Les femmes, appelées pour la blague « Madame l'ambassadrice », s'activaient dans la cuisine, y faisaient la vaisselle. Ce qui était fait aujourd'hui ne serait plus à faire demain. Le 25 au matin, à la première heure, je dévalais les escaliers en pyjama, puis, peloton nu sur carrelage marron, prenant le relais de l'ange Gabriel, j'installais le petit Jésus dans la crèche. Ouf, nativité, épiphanie. Alors, je est possible ? Malheureusement, la puberté sonne souvent le déclin du crédit accordé au compte. Ils ne suffisent plus à anesthésier les orteils qui, de manière intempestive, se cognent aux arêtes des gros placards transparents.
Eh ben, je dirais que moi, j'ai écrit 2 livres qui sont « Corps de fer » et « Cordon tombe ». Ces 2 textes qui sont sur l'autorisation à dire ce qu'on pensait indicible. Et là, je suis en train d'écrire un autre texte qui sera plutôt une fiction. Après, on s'inspire toujours de choses qu'on connaît, qu'on regarde, qu'on entend. Mais où je me détache de l'ultra-intime, peut-être. Ouais. Donc je dirais que je suis une personne qui écrit.
Là, je te rencontre dans le cadre du cycle « Dire et écrire » qui se tient à la MJC Grand Cordel. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le temps de rencontre qui a lieu hier soir ? Ce que tu y as vécu, ressenti ?
Hier, j'ai lu l'entièreté de Cordon Tombe parce que c'est de la poésie, donc c'est relativement rapide à lire, même si on peut s'arrêter toutes les pages, parce que souvent les phrases ont plusieurs sens. Mais j'ai retraversé tout le texte. Je l'ai fait à voix nue. Les dernières fois que je l'ai fait avec des musiciennes et une compositrice sonore. Et donc j'ai lu ce texte, qui est toujours très émouvant pour moi, parce que c'est un texte où je parle de la manière dont je suis née, déni de grossesse totale, et un peu... Et en fait, c'est 2 textes, Mon corps de fer, Mes cordons tombent, où il y a un peu un rituel magique. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je les lis, il se passe quelque chose. Mon corps de ferme, parce que il y a à chaque fois que je dis mélanome, c'est-à-dire vas-y parle, il y a cette idée d'éloigner la maladie, en tout cas cette pensée magique là. Et cordon tombe, il y a l'idée d'envoyer un faire-part qui a jamais été envoyé. Donc il y a un truc, c'est vraiment très performatif pour moi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que le public s'est couplé en 2 parties. il y avait des gens qui ont maintenu le regard, qui étaient très présents tout le temps. Et comme je pense que c'est un sujet hyper enfin, vraiment difficilement concevable, puisque pour le coup il y a peu de choses sur le sujet, très très peu de choses, et je pense que c'est la fin d'année aussi, et j'ai vu quelques personnes qui s'endormaient pendant la lecture. Je sais pas si c'est la bretonnité qui me reste ou quoi, mais je me suis dit, ah, peut-être que c'est quelque chose de très dur à entendre, en fait. Et du coup, on préfère s'endormir.
À presque 40 ans, les hormones en fête et en furie, les chakras éventrés, j'accède enfin au plaisir d'être difficile à vivre. Le mouvement de ma gorge me devance, je me mets à crier, crier, crier sans plus pouvoir m'arrêter. Des rides se dessinent même sur ma luette, cet organe charnu situé entre les deux amygdales qui joue un rôle dans la déglutition et l'émission des sons. Comme si j'étais, au-delà de ma volonté, en train de crier pour toutes les femmes tues qui m'ont précédée. La boule à neige brisée, le feu de pyjama, mon premier cri. Enfin, je m'entends.
J'ai écouté un petit peu plusieurs entretiens que t'as pu faire un peu pour préparer cet entretien, notamment les podcasts de La Franchie, et tu parlais d'une perte de voix qui t'avait saisie une fois le texte écrit. Est-ce que c'est bon, la voix est retrouvée, elle est bien là?
Ouais, mais je pense que de cet entretien, je remercie ma médecin généraliste qui m'a prescrit de la cortisone et de la codéine. Et c'est assez drôle parce que dans le texte, il y a un moment donné où je raconte que, enfin, je pousse un hurlement qui serait un hurlement transgénérationnel où je crie pour toutes les femmes qui tuent, qui m'ont précédée. Et donc c'est un long cri. Et il se trouve que le jour de la sortie du livre à Paris, le soir même, j'ai perdu ma voix pendant 15 jours, sans autres symptômes. Donc il y avait vraiment une extinction de voix, enfin, sans raison apparente. Et il y a un peu que la médecine intense qui m'a rendu ma voix, et depuis je ne l'ai pas reperdue. Ouais. Et j'espère, parce que je me sentais, enfin, tout ce que je fais en fait est tellement lié à ce que je dis, comment j'échange avec les personnes. Enfin, je me sentais vraiment extrêmement handicapée, quoi.
Il y a le moment de l'écriture. Il y a le moment où après tu fais vivre le texte, tu viens le lire, le performer, tu viens travailler autour. Comment toi, tu vois ces différentes facettes, comment tu les appréhendes?
Bah, quand j'écris, c'est déjà très très oral. Il y a un truc de son dans ma tête, de musicalité, qui est très forte. Et puis après, il y a le test avec le live, quoi. Et puis avec ce texte, Cordon-Ton, c'est vraiment drôle parce que il y a des gens qui l'ont lu. Et j'ai l'impression que quand ils l'entendent aussi, c'est encore une autre histoire qui est racontée. En tout cas, des retours que j'ai. Après, il y a des choses aussi marrantes. Alors, pas trop pour Cordon-Ton, mais pour mon corps de ferme, c'était plus le cas où les gens... je pense que c'est aussi un texte qui raconte un univers qui est globalement cerné par la violence et qui sont toujours étonnés de découvrir que j'ai une voix plutôt douce, en fait.
C'est vrai que ça fait partie des choses qui, enfin, moi, m'ont surpris hier soir, parce que le texte de Cordon-Ton, quand dans Femme aussi, il y a un aspect dur dans les mots, dans les phrases, etc. Il y a quand même ce côté mélodieux, des pointes d'ironie, etc. Mais c'est vrai que ta voix a donné une autre dimension au texte. C'était pas du tout cette voix-là que j'avais donnée en lisant le texte, quoi.
Mais oui, parce que Cordon-Ton, je vais visiter des aspects de moi qui sont... certainement moins doux que ma voix, quoi. Ça, c'est sûr. Et après, ouais, on choisit pas sa voix. C'est souvent, on fait ce retour.
Lorsque, de ces temps de performance et de lecture, il y a des choses qui sonnent différemment qu'au moment où tu les as écrites. Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent toi-même lorsque tu lis?
Ouais. Ça, c'est fou. Bah, en fait, c'est toujours ça. Quand on écrit, et après, on se rend compte. En tout cas, quand j'écris de la poésie, on se rend compte dans un second temps de ce qu'on a écrit. Et là, par exemple, il y a à un moment donné cette anaphore, il était une fois par an, selon comment on écoute. Et ça, je l'avais pas vu. Il y a beaucoup de choses que je maîtrise quand j'écris, ça je l'avais pas du tout vu. C'est il était une fois par an aussi en un seul mot, quoi. Et du coup la phrase prend un tout autre sens. Ouais. C'est assez fou. Et ça, vraiment je l'avais pas du tout vu.
Il était une fois par an, dans nos salons, des Californiens qui fêtaient Noël en maillot de bain rouge pendant que le Téléthon comptait ses millions. Il était une fois par an, la bombe à neige qui, par pulvérisation, faisait apparaître des chérubins sur les petits carreaux des fenêtres. Il était une fois par an les guirlandes lumineuses qui doublaient l'éclairage des lampadaires des bourgs. Les habitants les plus enthousiastes à la féerie saisonnière en rajoutaient même dans leur jardin. À leur contact, dans le car scolaire qui fondait les villages, dans la nuit du matin et celle du soir, mon regard s'illuminait.
It seems a dream that we could be so far apart, so suddenly. How quickly life can change into something very strange. The spring has sprung, but it's no fun. All our plans abruptly turn to none. Now the sad songs of the war, they seem closer than before. I send my love, love from a distance. I send my love, love from a distance. I'll see you soon when this is through. I know you're there inside your room, and I know you feel me too. We'll meet for lunch, it won't be long. More sweet, now we've tasted things gone wrong. Like those who lived in times of strife, who were once just like us, living the life. But then the sad songs of the war, they got closer than before. I send my love, love from a distance. I send my love, love from a distance. I'll see you soon when this is through. But for now, we share a love, love from a distance. We share a love, love from a distance. I'll see you soon when this is through.
Cordon tombe, je l'ai vraiment écrit dans un état émotionnel fort, où j'ai été visiter des parties de moi très anciennes. Et donc je pense que oui, j'ai complètement ça. Ça, je pense que ça participe aussi de réaliser ce qui s'est vraiment passé, même pour moi.
Tu parlais un peu de la performance de l'écriture. Je sais aussi qu'hier soir, à un moment donné, j'avais pas forcément perçu dans ton texte, mais ce qui m'est apparu à la lecture, c'est qu'il était aussi beaucoup question de dissociation et justement à l'inverse de se recentrer, d'être au monde, etc. Est-ce que tu dirais qu'il y a une dimension thérapeutique dans la façon dont tu écris ?
Il y a quelque chose de cet endroit-là. Après, ça suffit pas du tout, mais c'est... arriver à dire des choses qui semblaient indicibles, je pense que ça me soigne. C'est pas juste l'écriture, mais ça y contribue. Et puis surtout, ce qui soigne, c'est quand... souvent, les gens, ils écrivent pour ça, en fait, parce qu'ils ont pas été entendus. Que ce soit entendu, c'est une forme de... Il y a quelque chose de l'ordre du soin, ouais.
En t'entendant, je me rappelle d'autres mots qui ont été dit hier soir. T'avais parlé de donner naissance, c'est aussi faire sens, donner du sens... border des contours aussi, c'est une phrase que tu as pu employer. Est-ce qu'il y a peut-être aussi de l'ordre, pas forcément du côté thérapeutique, mais de l'ordre de retrouver de la sérénité, retrouver de la plénitude, plutôt ce genre de choses-là?
Oui, complètement. Ouais. Et puis aussi, une distance, quoi. Les mots, ils permettent de séparer, en fait. Et aussi de, du coup, désactualiser, le traumatisme, quoi. C'est-à-dire que ça a eu lieu il y a 40 ans et ça se réactive plus, chaque jour,
dans ma vie. Je pense que les mots se séparent, et c'est bien, en fait. Parfois, ils rassemblent, mais je trouve que c'est bien qu'ils se séparent aussi.
Et c'est une histoire qui se dessinait déjà un peu dans mon corps de ferme. Dans ces deux textes-là, il y a un rapport au corps qui est très présent. Je vais par là parce que moi, ce qui m'a frappé dans ces deux textes-là, c'est qu'il y a une façon d'écrire qui est extrêmement riche, qui articule plein de dimensions en même temps. Je pense au fait que, par exemple, tu vois, dans mon corps de ferme, le monde agricole n'est pas séparé du corps des femmes, ce genre de choses-là. Dans mon corps dont tombe, il y a ce côté où le déni de naissance devient une façon de parler de faire naissance de façon générale, de faire famille, etc. Comment, toi, tu appréhendes cette partie-là de ton travail sur ce côté multifacette, multifactoriel?
Bah, je sais pas tant si je l'appréhende que je suis comme ça. Pour moi, tout est atrocement lié, quoi. Tout. Tout, tout. Et du coup, mon travail, c'est de choisir les associations que je vais écrire, mais pour moi, tout est lié, c'est même infini, quoi. À quel point... Ouais, tout est lié. Des fois, j'ai du mal même à m'arrêter, quoi. Le corps, bah, qui est dans les deux titres, quoi. Corps dont tombe et mon corps de ferme, où on peut entendre corps à chaque fois, même s'il y a une fois où c'est plus évidente que l'autre. Le corps, c'est nous. Enfin, en tout cas, je distingue pas. Je me distingue pas de mon corps, ou je distingue. Il y a pas de, pour moi, il y a pas de dualité esprit-corps, en fait. On est aussi notre main, quoi. On est aussi notre ventre.
Est-ce que c'est juste là parce que t'arrives pas à faire sans, ou est-ce que ça participe aussi de ta recherche de justesse lorsque tu écris?
Quand j'écris de la poésie, il y a un truc de ce qui touche au corps, quoi. Ce qui est, et du coup. Le corps, il ment pas, en fait. Et il parle en permanence.
Le vivant, de façon générale, peut-être.
Mais nos corps aussi. Là, la manière... Tes mains racontent quelque chose, par exemple. Les miennes aussi. La manière dont notre corps nous lâche. Enfin, je crois beaucoup à tout ça.
Tu perçois le monde avec une polysémie un peu permanente. Et c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans ton écrit. Les mots sonnent de façon plurielle. Ça se voit dans tes titres, mais ça aussi dans les textes. Il y a plusieurs moments où on peut entendre différentes choses dans des mêmes mots. Est-ce que c'est quelque chose où t'as du plaisir à travailler comme ça, ou c'est juste, c'est comme ça que ça fait sens, c'est comme ça que c'est juste?
Bah, tout en même temps. Ça me permet de jouer. Ça me permet de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Puis après, il y a aussi ce phénomène de plusieurs lectures possibles. Ça laisse aussi les personnes assez libre finalement. En fait, Corps dont tombe, ça peut être lu aussi, je pense, comme un texte très 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 simple, sans se rendre compte de ce qui se passe. Et du coup, là, je pense que ça fonctionne même sur le déni. C'est sur le on voit, on voit pas. De toute façon, je vis le langage comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai suffisamment de place dans ma tête, j'entends toujours plusieurs choses quand elles me sont dites. Enfin, par exemple, là, je vois sur la porte écrit le mot réserve. Ça peut être entendu de mille, peut-être pas mille, mais au moins plusieurs manières. Et on peut, à partir de ce mot-là, imaginer qu'il y a tout un tas de choses derrière cette porte. Donc ça, c'est ma manière de lire, d'écouter. Et puis ça me permet de jouer, quoi. De jouer avec une inquiétude permanente. Par exemple, quand j'écris « Les enfants font bien leur nuit », soit ça peut être quelque chose qui a l'air souriant, soit... quelque chose d'inquiétant, et comme je le fais à répétition dans le texte, j'aime bien qu'il y ait cette de partager mon intranquillité générale. Ouais.
C'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans le texte où tu forces l'attention sur certains aspects en les reconvoquant à plusieurs moments. Moi, j'ai surtout retenu l'image du placard, de la neige, des pépères, etc. Est-ce que cette accumulation, cet écho, etc., pour toi, il y a un effet autre que regarder, il y a quelque chose qui se trame là?
En vrai, je pense que c'est une manière d'écrire sur la blessure. C'est-à-dire que je peux pas y aller frontalement. C'est trop douloureux. Donc, je vais procéder par motif. Et par image que tout le monde connaît. Autant l'expérience, peu de gens la connaissent. A priori. Même si je pense qu'on pourrait questionner de comment on vient au monde de manière plus générale. À cet endroit-là, peu de gens la connaissent. C'est très difficilement partageable. En revanche, si je raconte que c'est à plusieurs moments que c'est se cogner les orteils dans le coin d'un placard, et que ça revient trois fois dans le texte, par répétition, tout le monde a la sensation. C'est un peu ça le... Et moi, ça me permet de le raconter sans...
Mettre les pieds tout de suite dans le plat, quoi.
Ouais, en vrai, je saurais pas mettre autrement les... Ouais, je saurais pas mettre les pieds dans le plat, sinon je deviens folle, en fait. Donc j'y vais par touche, quoi.
Au pays des pépères, on décharge son venin sur la chair incontrôlée. On jase pour ragaillardir son besoin siphonné de se sentir frissonné. Au pays des pépères, on dit, comment a-t-elle pu ne pas voir? On dit, tu sais pas quoi? J'en ai une bonne. On dit encore rien de rien de rien. Enlacée dans sa ceinture sécurité pour ne pas être côté étranger.
Sur cette histoire du déni de grossesse totale, c'est une expérience qui est a priori très peu partagée parce que d'une part, les chiffres que tu partages montrent que ce sont des cas rares. Après, il y a aussi une complexité sur la traçabilité de ces cas, l'accès à son histoire de naissance, etc. Mais il n'empêche qu'il me semble que tu explores des termes qui, pour le coup, sont un peu plus partagés dans le monde des pépères, sur l'accès au contrôle de sa reproduction, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces thèmes-là que tu as voulu... que tu t'es retrouvée à explorer, du coup.
Ouais, bah après, malheureusement, je pense que toute personne assignée femme à la naissance doit se farcir le pays des pépères, quoi. Du coup, c'est une métaphore pour patriarcat, et évidemment, en tout cas, à ce moment d'extrême vulnérabilité de donner naissance, naître, enfin, toutes les violences systémiques se reproduisent sans surprise, on va dire, sauf que c'est un moment d'ultra-vulnérabilité, donc c'est encore plus fort. Et moment et... aussi enfant qui vient au monde qui est à la fois plein de ressources mais aussi très 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 vulnérable. Je sais pas si je l'ai dit hier soir, mais je me dis que si il y avait un monde moins inégal sur la question du genre, je pense pas que ce serait un non-sujet comme ça l'est aujourd'hui, la question de la naissance.
Et là où je voulais t'emmener, c'est que à la fin du livre, dans le paratexte, tu nous parles un peu de la justice reproductive.
En fait, quand j'ai appris l'histoire de ma naissance, très vite, j'ai commencé à faire des recherches et venait de sortir en France un texte qui s'appelle « Donner naissance, doula, sage-femme et justice reproductive » qui existe grâce à Alana Apfel. Et donc, j'avais organisé un festival qui est une de mes deuxièmes casquettes sur le thème de la reproduction et j'ai eu la chance de la rencontrer. Et j'ai eu envie de l'inviter parce que j'avais lu ce texte et en fait c'était comme il y a quasiment rien sur le déni de grossesse. Je voyais là des gens, des textes qui venaient plutôt du monde anglophone mais qui brassaient ce sujet et du coup je me suis sentie beaucoup moins seule. Enfin des gens qui accordent de l'importance à ce moment et qui ont un point de vue politisé. Et là depuis viennent de sortir deux autres livres, un qui s'appelle Venir au monde, dirigé par Johanna Soraya Benamrouche et Eva Luna Tzolans. Et donc c'est pareil, c'est un livre collectif avec des témoignages où on apprend plein de choses, des choses que je savais pas moi-même. Parmi les trucs apparemment que tout le monde sait sauf moi, c'est que les gaz lacrymogènes attaquent en fait les fœtus in utero en fait. Et l'autre, qui a un autre endroit qui est hyper intéressant, qui a été écrit par Iman Mer, publié par une super maison d'édition qui s'appelle Zoem, qui a aussi une librairie à Marseille, et ça s'appelle « Comment réparer la maternité et ses fantômes ». C'est des textes qui questionnent ce moment-là, qui en parlent. Et c'est assez rare, en tout cas, d'avoir des points de vue comme ça, vraiment avec du recul, un regard aussi critique, quoi. Ouais, je trouvais ça très, 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 très fort.
Et est-ce que tu pourrais nous citer comme ça une idée ou deux que tu as retenue de ces ouvrages-là qui t'a accompagnée sur ton écriture?
Ils sont parus récemment, après la publication de Cordon Tombe, donc j'ai pas écrit avec, à part Donner naissance. Donner naissance, en fait, tous ces témoignages, ils m'ont pas inspirée, je pense, directement, sauf, si, pour la scène de fin. Parce que du coup, j'ai eu accès à ces textes, que j'ai rencontré Alana Apfel et le traducteur du livre qui s'appelle Adèle Tincelin. Du coup, la scène finale, je pense que c'est là où tu veux me mener depuis plusieurs questions déjà. Du coup, l'idée de Cordon Tombe, c'est que je renais. Du coup, je prends en charge la gestation psychique qui n'a pas été portée pour moi. Et je suis entourée de doulas, d'amis, et c'est une sorte de naissance comme ça qui serait idéale. Et donc là, ça politise en tout cas la question de la naissance à la fin, même si c'est toujours très poétique, quoi. Et qu'il y a poétique et délirant, puisque évidemment tout ça n'a pas eu lieu.
Alors je tombais pas forcément par là.
Ah, mais j'ai cru.
Je sais que d'un moment donné, dans le livre, tu cites deux auteurs. Ou pour le coup, tu questionnes leur légitimité à être des ressources fiables, notamment du fait de leur position sur la liberté d'avorter ou faire famille en n'étant pas hétéro. C'était plutôt par là où je me disais, Il y a vraiment une politisation de ce que c'est donner naissance et faire famille.
Oui, oui, bah complètement. Oui, oui, en fait, le livre le plus connu sur le sujet a été écrit par des gens que je trouve extrêmement conservateurs et complètement à l'ouest, en fait, sur les questions politiques. Ce qui, en fait, moi, je me suis juste dit, étant née là où je suis née, je questionne la sensibilité, en fait, de ces gens et la manière de pouvoir qu'il y ait un transfert, en tout cas, sur eux, quoi, en fait. Enfin, voilà, je les trouve complètement en lunaire, avec pour l'une d'entre elles une sorte de fascination qui me gêne beaucoup, en fait. Ou un truc où, finalement, elle est pas loin du sensationnel des tabloïds. Alors, bien sûr, elle est beaucoup plus éduquée, elle a beaucoup plus de vocabulaire, mais...
Mais finalement, pas si éloignée des émissions télé.
Non, dernièrement, j'ai eu un interview sur France Culture et du coup, ils ont passé un extrait de ce qu'elle raconte.
On va écouter la voix de Sophie Marinopoulos qui, dans un documentaire, essaye de produire une pensée sur les dénis de grossesse, sachant que une pensée générale sur les dénis de grossesse est difficile à formuler, mais elle le fait.
La raison pour laquelle c'est un sujet tabou, c'est peut-être aussi que c'est trop près de nous. Ça peut être notre mère, notre sœur, notre tante, notre copine, notre cousine. Ça aussi, ça nous bouleverse quand même. Je crois vraiment que ce sujet dérange notre société profondément. C'est l'ultime provocation. Vous voyez, c'est cette part psychique qui n'est pas entendue, la part irrationnelle. Je pense que oui, c'est la situation maternelle la plus bousculante.
Elle parle du déni de grossesse comme... Alors, c'est coupé, hein, faudrait avoir l'extrait en entier. Comme l'ultime provocation des femmes. Et je me dis, mais elle est dans un délire littéraire, là, qui est très très loin de ce qui peut jouer, quoi. Et comme ça, un amour un peu... un amour des mots déconnecté de la justesse, justement.
Out of time, step under the sun, carry your child, your child. But the look in your eyes keeps talking to me, 'cause your love would defy any adversity from the heart. From the heart, from the heart. Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of pain. When humans got troubles, humans have problems instead. Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of pain for my mother and the others. Fat baby, screaming, screaming, no. Fat baby, screams from the heart. Doesn't decrease the amount of pain. When humans got troubles, humans have problems instead. Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of pain for my mother and the others. And my mother.
Oh,
organises un atelier d'écriture à la MJC Grand Cordel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet atelier, de la façon dont tu l'as préparé, si tu as des attentes particulières?
J'essaye surtout de proposer des situations d'écriture dont j'espère les personnes vont s'emparer. Et là, comme c'est en lien avec une lecture sur Cordonton, je suis vraiment restée sur le thème. J'espère en tout cas qu'à la fin, on aura 15 textes qui proposent des déclarations de naissance libres et poétiques. Et comme chacun trouvera son format, donc il va y avoir plusieurs situations d'échauffement avec des petites situations d'écriture qui durent... je pense 15-20 minutes, et puis après on rentrera dans une période plus longue d'écriture, avec en tout cas baignée de tout ce qui vient déjà de se passer, de l'écriture d'un texte qui serait une déclaration de naissance, sachant que comme tu le disais tout à l'heure, naissance c'est pris au sens large, donc c'est-à-dire pour moi ce qui fait naître le sens, et donc ce qui fait naître le sens ça peut être une rupture, une rencontre, un moment où les choses comme ça... semble s'éclairer un petit peu, ou font sens. Après, on n'a que 2 heures. Donc, déjà, si on fait ça, c'est super.
Ensuite, à finir la phrase. Vous pouvez relire.
Le badigeonner, taille.
Première fois, attention et dossier.
Ah oui.
Taille, vous pouvez l'entendre comme un verbe ou comme un nom commun. Quelqu'un a envie de dire l'échauffement, déjà? Ouais, allez-y.
Premier cri, bracelet, identité immédiate, nombril badigeonné d'éosine, prête pour le décollage dans une vie que tu découvres. On te pèse, on note la taille de ton petit corps, on vérifie que tu respires, surtout la première fois. Quel goût peut-elle avoir, cette première goulée d'air? Tout le monde fait attention à toi, ça y est. Ton dossier de droit à la vie est créé. En route, petite, et courage.
Merci.
Bonjour bien.
Allez-y.
Je me suis promenée dans ta maison. Tu sais, celle qui a été bâtie au réseau dans ce village si calme où les femmes badigeonnent leurs bambins avec du savon. Elles veulent qu'ils soient vraiment propres en commençant par la taille pour aller vers les pieds, puis en remontant vers la tête. C'est la première fois que ces femmes tunisiennes mettent autant d'attention envers leurs enfants. C'est beau, émouvant, à en verser des larmes. Le maire du village leur a demandé de remplir un dossier pour noter les gestes, les sourires, les rires de ces femmes. Une espèce de dossier souvenir du temps présent.
Merci. Clown, ventre, façade sociétale dans ton antre, si le micro capte ta chair, est-elle alors badigeonnée d'éternité? D'indélébile dans le silence radio qui sculpte la profondeur de ta voix. Vois avec les doigts, taille avec tes yeux, ton ventre se fendra en deux, et le clown de l'univers, en une poignée de rire, se changera en grand macabre. Scène de glace au bord des lèvres, première fois, dernière fois, dans tes bras, dans la couche épaisse qui englobe ton mystère. Attention à toi. Attention au silence qui hurle dans tes bras. Attention à l'attention qui tisse les filaments de ton existence. Je suis dérangée par ta présence cotonneuse. Maintenant, va-t'en. Pars et ne reviens que si le dossier est complet.
Il s'en passe des choses en 5 minutes.
Et quand je parlais d'attente, est-ce que toi, t'as des attentes sur la rencontre que ça va créer?
Ce qui me nourrit, en fait, quand c'est dans ces ateliers d'écriture, quand j'en donne, c'est vraiment assez égoïste, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est d'entendre les langues des gens. Et ça, je suis toujours curieuse, parce qu'en fait, c'est plein de gens que je rencontrerai a priori pas, que je connais pas. Et chacune a une langue particulière. Donc c'est toujours ça qui me nourrit. Ouais, c'est toujours nourrissant pour moi. Je repars tout, et c'est toujours des moments forts. Parce que dès qu'on invite à écrire, souvent on ouvre l'inconscient, quoi.
Allez-y. Dans la rue, la flaque se dilate jusqu'au trottoir, s'étend jusqu'au monticule de terre et badigeonne l'église, là juste en face, l'église vide dont les cloches se fêlent à l'intérieur des tailles de cyprès. Devant sa porte s'égrènent les fidèles et les infidèles dans le noir absolu, pour la première fois leur font signe de croix. Attention à ne pas froisser les susceptibles. Pourquoi me mets-je à parler religion, moi qui,
Tout ça, c'est à cause de l'église que j'ai vue en arrivant. Ce sera dans mon dossier une circonstance atténuante.
Merci beaucoup.
À quelqu'un
Du coup, ça parle un peu de ce qui m'est arrivé avant de venir.
Ah bah justement, je sais pas, c'est bien, ouais.
Il y a ces incertitudes sur l'arrivée de nos chemins, qui j'espère ne coûtera pas plus de parchemin badigeonné, du haut combien trop l'aigu. Taillé à même la carrosserie de mon carrosse, je me serais bien passé de cette nouvelle déconvenue. Pour mon avenir armé encore d'une nouvelle première fois, attention, ça risque de se creuser. Attention à ce nouveau dossier, à la couleur de ton honnêteté.
Merci.
Ce matin, tes cheveux soyeux dans ma main, je te retiens pour ne pas travailler. J'ai badigeonné ton corps de caresses pour te retenir dans les draps. C'est la première fois que je fais ça. Attention, n'en profite pas pour te tailler du lit. Je sais que tu as un dossier urgent à finir. Écoute plutôt la pluie tomber. Elle chante une chanson sur le toit. Reste dans mes bras.
Merci.
J'avance dans la nuit. Où vais-je te trouver? Je voudrais badigeonner mes peurs, les enduire de peinture, en faire des fresques de taille démesurée. J'avance dans la nuit dans l'espoir de te voir. Ce serait la première fois que j'oserais te parler, t'apostropher, attraper ton attention. J'avance dans la nuit, j'ai ouvert ce dossier. Aller vers toi et enfin te trouver.
Ouais. Le mot dossier, il est... Il y a des dossiers, comme on dit. Ouais. Merci beaucoup.
Et est-ce que toi, en tant qu'autrice, enfin, je sais que tu as participé à faire naître un ouvrage qui s'appelle Lettres aux poétesses. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de cette dynamique-là qui se joue dans ces ateliers?
On va dire que j'ai un parcours sociologique qui fait que l'écriture, c'était pas du tout quelque chose de donné au départ, mais vraiment pas. Et donc, dès que je peux encourager chacun, chacune, mais en fait, à se donner l'autorisation soi-même, c'est pas moi qui la donne, l'autorisation, évidemment. Et ben, ouais. Et aussi, il y a un truc de désacraliser l'écriture. Je fais très peu de retours critiques sur les textes. Souvent, j'ai l'impression que l'écriture, au tout départ, en tout cas, pour les déclencheurs, c'est aussi un espace-temps et une écoute, avant tout. Donc voilà, c'est ça. Je propose un cadre, simplement.
Et quand tu disais que l'écriture t'était pas donnée, on est sur quelque chose où c'est juste, c'est une pratique qui n'existe pas autour de toi, c'est pas quelque chose qui est valorisé, ou c'est plutôt de l'ordre de, bah, c'est pas pour toi. Est-ce que c'est de l'ordre de l'absence, ou est-ce que c'est de l'ordre du interdit?
Ouais, c'est un interdit, c'est un impossible, en tout cas, c'est pas... Mais même d'ailleurs, j'ai été longtemps, j'ai fait plein de travail dans le milieu du livre, et moi-même, j'ai mis du temps à me dire, ah, mais peut-être que moi, alors que j'avais déjà eu des retours sur mes textes, etc., ou des gens qui me posaient la question, ah, t'écris, mais je croyais que c'était pas pour moi, quoi. Et du coup, je pense que ce livre, il procède de... Enfin, en tout cas, les lettres qui ont été écrites et que je coordonne et que je préface seulement... Ces lettres, elles m'ont donné, je pense, de la force à moi pour écrire, ouais. Donc je sais aussi que ça... C'est Violette Leduc, je crois, qui dit dans un interview « J'aurais pu aussi ne pas écrire ». Moi, j'aurais pu aussi ne pas écrire complètement.
Quelqu'un se lance encore ?
Je me mets en jambes sur des mots. Je glisse des pieds sur les lignes. Je badigeonne de vernis le centre de mes phrases. Taille les sujets, taille les noms, taille les verbes. Mes jambes taillent les crayons. C'est la première fois que j'écris le mot « aimer » sur une feuille. Attention, je mens, puisque je suis un poème et que je n'ai pas de jambes, mais des mains pour écrire. Ouvrez les dossiers. L'écriture est une erreur de ma nature.
C'est étrange la manière de démarrer. Partir à l'aveugle avec une lampe torche qui badigeonne la vue. Impossible de voir, de savoir, davantage, sauf à tailler dans la chair. Mais veut-on arriver là, être exsangue, dégoulinant et hurlant comme pour la première fois une découpe sauvage, sans attention, alors même qu'il s'agirait de suivre délicatement la ligne avec le doigt, de remonter à la verticale en longeant le bord jusqu'au dossier.
Merci.
On parle de délivrance, bébé évacué, mais placenta qui fait de la résistance, qu'on doit aller chercher. Ventre écartelé, badigeonné, péridural s'en étalé. Morsure de la main qui fouaille, qui taille, qui déchire les entrailles. Griffure à l'intérieur, cri à l'extérieur. Souffrance indicible, visage inquiet, fermé. Pour une première fois, c'est mémorable. Cette sensation que l'on vous arrache les viscères. Qu'on essaie de retenir votre attention pour contrer l'évanouissement. ne plus rien entendre, ne plus rien comprendre. Ce dossier du placenta jamais évoqué lors de la préparation à l'accouchement. Mais il paraît que c'est rarissime. Alors pourquoi moi ?
Quand j'écoutais la lecture hier, je me disais, mais je me demande s'il y a d'autres personnes comme ça qui arrivent à écrire. Il y a Trégomeur dans un coin et Disney Channel de l'autre. Enfin, je me demandais s'il y avait d'autres autrices qui pouvaient faire écho à ce que je vis, à ce que je pense, à la façon dont je parle, etc. Et du coup, tu viens de citer Violette Leduc. Je pense qu'il y a aussi un côté, enfin, Violette Leduc qui me paraît plus proche que, genre, Simone de Beauvoir. Est-ce que toi, comme ça, t'as des auteurices qui t'ont permis de te dire « j'ai ma place dans ce monde-là » ou alors des autrices où tu te sens proche de la façon dont t'écris vis-à-vis des leux?
Bah, je pense que la scène poétique belge m'a beaucoup inspirée, notamment les slameuses, la liberté qu'elles prenaient. Donc c'est plus le slam, je pense. Après, je suis une immense lectrice. Donc en fait, je pense que j'ai eu beaucoup, je me suis appuyée tout au long de mon parcours de lectrice sur beaucoup, beaucoup de textes. Donc c'est toujours une question difficile pour moi de citer juste quelques personnes. Après, je suis à l'origine du podcast qui s'appelle Les Parleuses, où on invite des autrices contemporaines à parler d'autrices historiques.
La destinée de semence de la terre est de prendre racine parmi les étoiles.
Littérature, etc. présente Les Parleuses.
Rien dire, c'est comme ignorer le feu qui gronde dans le salon parce que nous sommes encore à l'abri dans la cuisine.
Séance de bouche à oreille.
Je me suis allongée sans même enlever mes chaussures et, me pelotonnant en position fœtale, je me suis endormie comme une masse, à moins que je ne me sois évanouie de nouveau.
Pour propagation du matrimoine littéraire.
Il y a des choses qu'on supporte mieux une fois qu'on les a écrites.
Enfin, vraiment, je lis énormément, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens. Je pense à Zora Neale Hurston, qui est la première femme noire publiée aux États-Unis, et j'aime beaucoup son positionnement. C'est ce truc de comment on parle d'un milieu qui est déjà beaucoup parlé par les autres, mais pas par les gens qui en viennent. Donc comment on fait, en fait, pour trouver cette position sans tomber dans un délire où les gens seraient plus authentiques qu'ailleurs. Enfin, il y a plein de pièges, je trouve, comme ça. Béatrix Beck, mais il y en a plein. Et je voudrais citer une personne, en tout cas le dernier livre que j'ai lu c'est cet été, et qui fait ça admirablement, il s'appelle Benjamin Daugeron. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle 13 ans à te regarder mourir sur l'alcoolisme de son père. Et donc il vient du sous-prolétariat. C'est sublime ce qu'il a réussi à faire, en fait. De mettre dans des livres des mots qu'on considérerait illégitimes, qui seraient pas assez beaux pour la littérature. Cette idée du beau, elle est vraiment néfaste, je trouve.
Et plutôt que du coup de citer les personnes en elles-mêmes, peut-être tu peux nous parler des moyens que tu as mis en place pour pouvoir accéder à ces écrits-là. Certes, de base, tu lis, mais j'imagine que de par les métiers que tu as pu avoir, les projets type podcast ou festival. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce dispositif qui permet d'aller à la rencontre de ces textes-là?
J'ai commencé à travailler en librairie, j'avais 19 ans. Et j'ai mis du temps à voir, mais au fur et à mesure, en tout cas, ça s'est précisé. Et puis après, une fois qu'on découvre un texte, on a accès à d'autres. Enfin, il y a un truc comme ça. Après, il y a des choses aussi très matérielles, comme ça fait longtemps que je travaille dans ce milieu, je fais partie des gens qui ont eu beaucoup de livres gratuitement. Donc il y a un truc comme ça de constellation d'auteuristes et qui savent aussi que je vais les lire. Enfin, souvent c'est des textes qui sont sous-représentés. Et après, je pense que non, c'est une forme de curiosité, quoi, qui a été grandissante et pour le coup, je pense assez boulimique. Et aussi, je pense que j'ai vidé plusieurs fois ma bibliothèque et j'ai enlevé plein de livres. Enfin, j'ai mis du temps à y arriver. Mais aussi parce que c'était des textes qui étaient, c'est quand j'ai lu les premiers textes des éditions Blast, notamment Colza de Albellac, et je me suis dit, ah, ça y est, nos histoires sont dans la littérature. Et ça m'a fait un, ouais. Mais je sais pas, ouais, non, une forme de curiosité comme ça qui, au fur et à mesure, m'a guidée de plus en plus précisément. Je pense que j'ai, ouais. Mais au départ, j'ai lu 10 livres pour en trouver un qui me parle, et puis ça s'est affiné au fur et à mesure, quoi.
Et est-ce que t'as peut-être des maisons d'édition que tu voudrais conseiller?
Bah, je dirais les éditions Zoem, les éditions Du Commun, les éditions Blast, ouais, j'ai l'impression que c'est en poésie, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment des maisons qui font un travail admirable en ce moment. Ouais. Et on peut quasiment. Il y a aussi hier, j'ai acheté un livre Loi de Cravant pour les Québécois. Ouais, mais il y a plein. Après ça, c'est mon chemin, quoi. Je crois que chacune doit trouver le sien.
Et quand tu dis un travail formidable, tu parles vraiment du travail, on va dire, artistique, littéraire, où tu comprends aussi la dimension plus éditoriale, entrepreneuriale. Je te dis ça en ayant en tête débordé des Bolloré.
Oui, complètement. Je pense que pour ces maisons-là, il y a une éthique, en fait. Il y a une éthique politique qui est, que je trouve admirable et aussi un engagement. Parce que évidemment, c'est des maisons d'édition qui sont financièrement extrêmement ric-rac, quoi. C'est vraiment pas, on est justement pas chez Hachette ou voilà, c'est des maisons d'édition qui brassent absolument pas des millions et qui ont un engagement fort pour des textes qui leur plaisent vraiment. Je pense que c'est des maisons d'édition qui sont très loin de l'idée de faire des one shot. Enfin, on est loin du marketing, quoi. Du coup, c'est pas rentable d'être loin du marketing en ce moment et je les trouve fortes d'en réussir à tenir, en fait, dans ce monde-là où, en effet, la concentration dans le monde de l'édition, elle est dure. Oh, yeah. Un petit tout dehors, c'est comme...
Pas laisser s'arriver, oh. Et un grand nombre de la série, les salopes cassées. de néon, sac plein de chaises, attends mes deuils. Ma petite dehors, c'est quoi? J'aime mieux à t'offrir ce silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si ton ton te touche. N'aie pas peur, dis-moi, il a pas le droit. Si jamais ces niamas se touchent, je suis pas là pour toi quand je reviens, dis-moi.
Tu n'ouvres la bouche que pour parler ou quand je te nourris. Tu sais, les monstres ne sortent pas qu'à Halloween. T'es ma chair, t'es mon sang. Si te vole ton innocence, la mort c'est la rançon. Éliguez vos fils, la jupe c'est pas un risque. Même voyelles font écorcher la pubis. Dis-moi à quoi ça sert d'appeler la police. Si je suis mais rien va gagner. Elles grandissent mais jamais ne guérissent. Domineur, ils chantent comme R. Kelly. Ok.
Je voulais parler un peu de l'après. Tu me disais que tu avais déjà des choses en cours, mais en écoutant pas plus tard que cet après-midi l'entretien que tu donnais il y a 2 ans à la librairie La Franchie pour parler de Mon corps de ferme, tu disais que pour la suite tu voulais écrire du queer et du sexy.
Ouais, non, je disais ça comme une blague parce que je fais pas du tout c'est pas du tout ce que je fais en ce moment. Queer a priori en fait je crois que je suis queer dans le enfin je suis queer tout court mais dans les textes je suis queer par la manière que j'ai d'écrire quoi, c'est-à-dire de toute manière est valable, il y a un truc aussi très non hiérarchique et puis je pense qu'il y a un truc aussi de très bizarre dans mes textes et ça, je pense que c'est mon endroit le bizarre. En tout cas, si on l'entend au sens classique, genre une histoire d'amour queer, je crois pas. Peut-être à la fin, ça pourrait faire une belle fin, en fait. On verra. On verra.
Effectivement, comme tu le disais, le queer, pour moi, il transparaissait déjà un peu en ligne. C'est pas le sens du sujet, mais c'est pas pour autant qu'il est absent de la pièce, en fait, dans la façon dont tu écris tes textes. Hein.
En tout cas, je peux pas faire autrement qu'être queer, quoi, ouais. Et quand j'écris aussi. Et même s'il y a pas... De fait, il n'y a pas l'étiquette queer sur mes livres parce que c'est plus une manière de faire que qui est comme ça, mais que je revendique pas tant que ça. C'est juste je fais comme ça parce que je sais pas faire autrement.
Et du coup, pour la suite, si tu veux nous parler un petit peu de ce qui est en train de bouillonner dans la marmite.
Je vais le dire pour l'enregistrer, mais ça aura peut-être changé. En tout cas, là, je me suis dit, j'étais à Montparnasse avant de prendre le train. Et j'ai remarqué, j'avais jamais remarqué qu'il y a, juste à côté de Montparnasse, il y a rue de l'arrivée, rue du départ. Et je me suis dit, ah, c'est fort. Et je me suis dit que le prochain texte, il s'appellerait certainement À l'arrivée. Mais ça peut aussi complètement changer. Voilà, je peux pas en dire plus pour le moment. C'est trop en train de se faire.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'état dans lequel tu l'es en l'abordant? Parce que j'ai l'impression que Mon corps de ferme est, Cordon-tombe, il y avait un volet très introspectif. Peut-être que je projette, mais un truc de « il faut le faire pour soi-même ». Est-ce que ce texte-là, il y a peut-être une autre dynamique qui est là, ou est-ce que tu peux nous parler un peu des émotions que tu ressens quand tu écris ce texte-là?
Ce sera un livre très... À mon avis, en tout cas, très partagé, quoi. C'est l'idée d'une... Comment on a accès à s'entendre soi-même. Bon, c'est très vague dit comme ça. Je veux pas en dire plus parce que ça peut encore beaucoup changer. Mais oui, je pense que ça va parler. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens.
Oui, t'as parlé d'un nous déjà.
Ouais, je pense que... Puis même le côté aussi qu'on sorte de la poésie un peu. Enfin, je pense que ce sera encore une langue poétique, mais on verra. On verra déjà si ça s'appelle « À l'arrivée ». Mais en tout cas, c'est vraiment... J'en ai encore jamais parlé. Or, vraiment, cercle très très proche. Mais je crois que ce sera l'idée d'un voyage. Ouais, l'idée d'un passage, d'un voyage dans différents mondes. Et comment on traverse ces mondes et est-ce que ça nous coûte.
Super.
Il n'y a plus qu'à.
Ouais, j'ai encore vraiment des mois de travail devant moi, je pense, mais je serais contente en tout cas si je reviens pour ce roman qui s'appelle À l'arrivée, qui sera toujours pas le texte queer et sexy. Je pense que queer et sexy, ce sera pour mes vieux jours. Je serais contente d'en parler avec plus de précision. Mais pour le moment, ouais, je suis vraiment en train de... Je suis en fait juste en train de faire de la place dans ma tête parce que Cordon Tombe est sorti il y a 3 mois, il y a eu une tournée très intense, donc juste avoir du temps pour penser, imaginer. Et juste là, j'ai profité justement de prendre le train et je me disais, ah c'est ça, enfin ça y est, elle commence, le texte commence juste à m'habiter en fait. C'est pour ça que je peux pas beaucoup en parler, faut que je garde ça pour moi et que je fasse un peu monter la sauce.
Non mais c'est marrant qu'il ait plus de place quand t'es en voyage justement.
Ouais, ouais. Oui, bah parce que c'est aussi la fin de la tournée. Donc je sais, en fait là c'est ma dernière date de 2025. Donc je sais que je vais avoir plusieurs mois pour janvier, février, c'est beaucoup plus calme pour écrire.
Le gras est rentré, on peut passer en jachère quoi.
Ouais, exactement. Et j'ai besoin de ça, absolument.
Merci à Aurélie Olivier pour sa langue, le temps accordé à cet échange et à la sélection musicale offerte à cette émission, composée de Love from a Distance de Michel Gurevich. Bother de Hot Bodies, Something Like You de Kate Bush, et enfin Ma Petite par Rachel Allison et Meryl. Merci aussi à la MJC Grand Cordel pour l'accueil et la captation de la lecture rencontre dont vous avez entendu des extraits. Merci aux éditions du commun pour l'exemplaire presse et le travail éditorial remarquable et essentiel que vous effectuez. Et enfin merci aux participants participantes de l'atelier d'écriture de m'avoir laissé capturer leur texte d'échauffement. A bientôt sur Syllab pour plus de crachats littéraires.